Vous écoutez
RMC.
Idir, supporter marseillais, avec nous au 32-16 sur RMC. Bonsoir Idir.
Salut tout le monde.
Salut Idir.
Bon Idir.
Je voulais parler du parce que là je suis super énervé entre les joueurs et je leur dis un message là tout de suite là. Je sais qu'ils disent tout à la radio. Vous êtes vraiment des merdes, voilà, des grosses merdes.
Bon, Idir, dis, voilà. Juste modère tes paroles. Tu peux dire vous êtes minable.
Ouais, vous êtes minable. Excusez-moi, parce que je suis super énervé entre les joueurs, parce que ce qu'ils nous ont fait, c'est une honte. C'est un manque de respect pour les supporters qui payent leur abonnement. Il y a 50 000 abonnés à Marseille. Au moins, il faut les respecter. S'ils ne respectent pas Mehdi Benassia, s'ils ne respectent pas la direction, ok, mais les supporters, on les respecte. Ça, c'est le message. Maintenant, moi, je vais vous parler par rapport au projet de l'année prochaine. L'année prochaine, M. Richard qui arrive. Il y a M. Lorenzi qui devrait arriver comme directeur sportif. Ils vont nommer un nouvel entraîneur. Moi, ce que je demande à mon club, c'est de la stabilité. C'est-à-dire des joueurs qui restent 2 ans ou 3 ans au club. On en a marre que chaque année, les joueurs changent. Voilà, il faut une stabilité dans ce club. Parce que si, tous les 6 mois, changer de joueur, on ne peut plus... Ça,
oui, mais dire aussi, à un moment donné, il ne faut pas être hypocrite. On est les mêmes, moi le premier. Quand Eli Wahi, au bout de 6 mois, est catastrophique et que Neil Maupay lui passe devant et qu'il est plus connecté au reste de l'équipe, à dire Eli Wahi, ce n'est pas compatible à l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas oublier que... Moi, et là j'enlève les supporters dans le compte.
Mais vous aussi, vous êtes responsable.
Mais moi, je suis responsable. Mais attends, enfin, après, moi, encore une fois, je ne suis pas là pour faire le bonheur de l'Olympique de Marseille. Hein. Et mon boulot, c'est pas d'être en mode « Oh, super !» et tout, là. Je suis là pour dire ce que je pense. Et encore une fois, vas-y. Je pense que toi, quand Eli Wahi est arrivé, je sais pas si t'as fait partie de ceux qui ont sifflé Eli Wahi dès le premier match contre Reims, mais il y avait beaucoup de critiques aussi sur Eli Wahi. Au bout de 2-3 mois, on a bien compris que la greffe, elle prenait pas. Donc, oui, les dirigeants doivent être beaucoup plus froids que nous. Il y a aucun souci. Mais par contre, ton discours, Idir, en disant tous les joueurs doivent rester 3 ans à l'Olympique de Marseille, on sait que c'est pas possible.
Alors, on laisse répondre Idir. On l'écoute.
Attendez, Jean-Pierre Papin, quand il est arrivé la première année, il a été sifflé. Mentalement, il s'est remis. La deuxième année, il est devenu JPP. Les joueurs doivent être forts mentalement pour jouer. Des sifflés pour un joueur.
Non mais Idir, alors j'aimerais une question, parce que tu prends l'exemple de Jean-Pierre Papin, il est très vrai, tu peux prendre l'exemple de Chris Waddell, il a mis du temps à s'adapter, Didier Deschamps est parti en prêt à Bordeaux, il est revenu, etc. Mais c'était déjà un autre football, une autre équipe, etc.
Une autre époque.
Mais est-ce que toi, et l'exemple de Wahi, il est parfait, quand il arrive... Il n'a pas réussi. Et finalement, il a été dégagé très vite. Il est parti au premier mercato suivant en Allemagne. Est-ce que tu aurais voulu qu'il reste, même si au début il n'était pas bon, pour lui laisser une année d'adaptation, etc. Dis-nous la vérité. Comment tu étais dans cet état d'esprit au moment où il y avait Wahi ?
Karim, Wahi, il y avait un problème avec Wahi, c'est son entourage. Il sortait tous les soirs, tout ça.
Non, mais ce n'est pas la question là, que je te pose. Je te demande, toi, en tant que supporter.
Oui, j'aurais voulu qu'il reste parce que tout ça.
Que Brassier reste aussi.
Vitinha, tu voulais qu'il reste, Vitinha par exemple.
Mais arrêtez, vous êtes en train de détourner le débat. Arrêtez.
Mais pourquoi Brassier, c'est pas un mauvais joueur. Je veux dire, Brassier, il aurait pu peut-être avoir la même histoire que Galas. Tu viens de Caen, t'es à Marseille et t'exploses. Il a explosé en vol à Marseille, mais on lui a pas non plus laissé le temps.
C'est impossible d'avoir de la stabilité à l'OM pour vous.
Non, c'est possible. Moi, je suis d'accord avec Maxime. Maintenant, je t'interroge parce qu'il faut. On est là. De toute façon, notre métier, il est facile. On est là. Je le dis souvent. On fait la météo du football. Il pleut, il fait beau. On est inspecteur des travaux finis. On regarde la maison, la baraque. On dit en fait la baraque, elle est bien, elle est pas bien. Je m'installe dans le canapé, j'allume la télé. Donc c'est facile. Maintenant, je dis juste que moi, est-ce que quand Vitinha, moi en fait sur les erreurs de mercato, à quel moment on estime qu'à l'Olympique de Marseille, c'est une erreur de mercato ou pas? Est-ce que tu as la vision sur les mecs si au bout d'un an, ils ne prennent pas le pli, ils sont fait déchirer sur les réseaux sociaux? Abdelli, par exemple. Abdelli, c'est sûrement un bon joueur. Oui. Abdelli, à chaque fois qu'il fait un match, il se fait dézinguer. Oui. Parce qu'il est mauvais. Il y a des sosies, Walid Acherchour, etc. Non, mais parce qu'aujourd'hui, les joueurs, ils regardent les réseaux. Ouais. Aujourd'hui, il y a les groupes WhatsApp, les groupes Snapchat, regarde ce qu'il a dit, etc. Les mecs, ils se minent. Les mecs, c'est comme ça, etc. Comment tu fais, toi, Abdelli? Tu lui laisses une deuxième chance? Est-ce que tu lui laisses un an et demi?
C'est un débat intéressant.
Vitinha, tu vois tout de suite que c'est une voiture volée, Vitinha. Voilà. Ouais. Très rapidement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? T'as mis 32 millions d'euros sur Vitinha. Ouais. Tu continues, tu t'entêtes ou tu le sors?
Je veux la réponse d'Idir et après Maxime, tu vas répondre. Idir, réponds-moi sur Brassier et l'autre exemple qui a été donné à Abdelli. Parce qu'Abdelli, attends, je finis ma question. Abdelli, si on part du principe par rapport à l'OM d'aujourd'hui, là au mois de mai, il dégage. C'est exactement exactement ce qui s'est passé sur ces derniers mercato quand un joueur ne répondait pas présent tout de suite. Donc toi, sur Brassi, est-ce que tu voulais qu'il parte à Rennes? Et Abdelli, est-ce que tu veux le garder?
Brassi n'aurait jamais dû venir à l'OM et Wahi n'aurait jamais dû venir à l'OM. Parce que la cellule de recrutement, elle a mal travaillé. Avant de faire venir un joueur à l'OM, il faut étudier son entourage et tout ça pour certains directeurs sportifs de grands clubs européens. Nous, on ne le fait pas, ça, à l'OM.
Mais Dibé Nassia disait l'inverse. Il disait qu'il observait tout et que c'est comme ça qu'il choisissait les joueurs. Bon, mais tu ne nous as pas répondu. Donc, Brassier, toi aussi, tu avais un problème avec l'entourage parce qu'il n'y a jamais rien qui est sorti sur Brassier.
Non, Brassier, je l'aurais gardé. Au moins, pour finir la saison avec les joueurs. Voilà, il faut pas jouer. Maintenant, il faut arrêter. Déjà, ça marche pas. À chaque fois, attention, les joueurs, ça marche pas. Il faut une stabilité à l'OM. C'est la stabilité qui fait marcher. Regardez au PSG. Ok, ils ont plutôt de moyens, mais ça fait 3 ou 4 ans, tu joues avec la même ici.
Bien sûr, il y a une réalité.
Après, il y a aussi notre réalité. Il y a aussi notre réalité. Moi, j'aimais beaucoup le coach. Il y a aussi le coach qui doit faire progresser les éléments. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, un Brassier, quand il arrive, est-ce qu'il est validé par le coach de Zerbi et Benatia?
Moi,
j'avais trouvé tout de suite, très rapidement, que c'était une erreur parce que pour moi, il n'a pas le jeu cérébral, sans lui faire injure, que de Zerbi mettait en place. Moi, je me rappelle l'été où il arrive, je dis ça va être une grosse erreur. Et ça a été une grosse erreur. Bon, après, j'ai déjà dit beaucoup de conneries aussi.
Oui, mais ils ont été validés, ces gens-là.
Mais de Zerbi doit faire progresser, un mec comme Wahi. Il doit faire progresser pas mal de joueurs qui arrivent à l'Olympique de Marseille. Il y a aussi ça, en fait, la résultante. Moi, pour moi, il y a des erreurs du DS. Il y a eu des erreurs de Mehdi Benatia sur certains profils.
Est-ce que
ces profils-là ont été validés par le coach? Est-ce que le coach, quand Brassier rate un match ou deux, est-ce qu'il le met à la CAF? Comment il le gère, le management?
Après, ça fait partie du management. Moi, pour avoir été joueur, je peux te dire qu'il y a un temps d'adaptation. Et à l'Olympique de Marseille, on sait que le temps d'adaptation peut être parfois un peu plus long. Après, pour répondre à ta question, Walid, comment tu t'en sors avec des joueurs où tu sens que c'est une fraude? C'est toujours une histoire de valeur marchande. Si tu sens que tu peux les dégager très rapidement, récupérer ton investissement pour pouvoir les remplacer par un joueur meilleur, moi je dis ok par rapport à ça. Et c'est le cas de Balerdi par exemple. Moi, Balerdi, pour moi, au bout de 2-3 ans, tu te rends compte qu'aujourd'hui c'est un bon joueur, c'est pas un très bon joueur pour l'Olympique de Marseille. Il est temps de le sortir, à condition évidemment qu'avec la valeur marchande que tu as récupérée sur un transfert, tu sois en mesure de pouvoir le remplacer par un joueur qui est meilleur que Balerdi. Ça, c'est mon avis. Mais pour te dire, pour revenir par rapport aux joueurs, moi je pense qu'il faut leur laisser du temps. Tu es sur un cycle, comme on a parlé de 3 ans, mais ça peut être un peu moins. On sait que dans le football moderne, tout est très rapide. Tu ne peux pas changer continuellement d'effectif chaque année et te retrouver avec une symbiose au sein de l'effectif. Ça n'existe pas. On a le Paris Saint-Germain, c'est le meilleur exemple. Aujourd'hui, tu as besoin justement un peu de stabilité, que ça soit chez l'entraîneur et que ça soit surtout entre les joueurs. Ah, c'est trop important.
Ah, ben oui. En fait, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille.
Donc, tu n'as aucune équipe qui est en mesure de pouvoir faire 2 ou 3 saisons avec les mêmes joueurs.
En fait, pour moi, la stabilité, elle a été. Enfin,
la stabilité, c'est pas non plus les 16 joueurs. Tu gardes la.
L'instabilité pour moi a été trop caricaturale. Ah ouais. Tu vois, par exemple, je me pose la question, moi, quand je vais en début de saison, quand tu disais que l'effectif a été mal construit, pour moi, il y a un gros problème au milieu de terrain. Mmh. Mais le milieu de terrain, en fait, c'est le départ de Rongier et le départ de Rabiot pour deux raisons différentes. Ouais. Pour moi, on fait beaucoup de mal à l'Olympique
pour
de Marseille.
Rabiot,
voilà. Mais moi, pour moi, le duo, l'un avec l'âme qui est Rongier, qui, on se rappelle, hein, a organisé le milieu de terrain après Lens sur la première saison et qui a fait beaucoup, beaucoup de bien. De Zerbi a dit, c'est mon organisateur. Et c'est ce changement de système-là qui avait fait beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille. Et Rabiot, pour les raisons qu'on connaît, où en deuxième partie de saison, pour moi, c'est le meilleur joueur avec Greenwood de l'Olympique de Marseille. Mais derrière, il y a eu un effet panic buy avec des joueurs qui sont arrivés, notamment Riley, Vermeeren que j'aime beaucoup, mais qui n'était pas prêt mentalement, et j'en passe.
Rassure-moi, tu t'enlèves pas Rongier et Rabiot en récupérant Vermeeren derrière. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu une réflexion derrière.
Moi, je pense que Vermeeren et Riley sont des panic buy de Adrien Rabiot parce qu'ils sont obligés de sortir Rabiot en niveau éthique et niveau management par rapport à la fameuse institution qui a pété.
Ils n'étaient pas du tout obligés.
Non, c'est bon, non.
Il y a aussi l'histoire que Rabiot voulait pas prolonger
d'accord,
et tout.
Enfin, il y a cette histoire. Il y a aussi à un moment donné De Zerbi qui a dit qu'il y avait un affront dans le vestiaire de la part d'un joueur et que derrière il pouvait pas se regarder dans une glace. Il y a eu des choses aussi qui ont fait que ils ont voulu sortir Adrien Rabiot. Moi, pour moi, c'est une grosse erreur. Mais factuellement, c'est le choix qu'ils ont assumé. Oui. Derrière, il y a une escalade de choix, de mauvais choix, panic buy qui font que ton milieu de terrain pour moi est trop déséquilibré. Tu as des 10, t'as des mi-8, mi-10, mi-6. Pour moi, ça avance plus, etc. Ouais, d'accord. Donc, moi, ce que je vais expliquer, c'est que quand tu regardes l'effectif, pour moi, par rapport à l'année dernière, normalement, t'as un effectif qui est meilleur. Sauf qu'à la fin de saison, tu te rends compte que est-ce qu'avec Højbjerg, Rongier, Rabiot, t'avais pas un meilleur milieu de terrain l'année dernière que cette année? Moi, je pense que oui. Sauf que est-ce que tu le savais un an avant? Donc, c'est pas l'histoire de la stabilité. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a un gros problème à l'Olympique de Marseille. C'est que, en fait, tu as des joueurs, s'ils sont trop forts, enfin, s'ils sont très très forts, il va falloir que tu les vendes parce qu'il faut que tu fasses rentrer de l'oseille.
Mais c'est la réalité du football.
Voilà, c'est la réalité du football. D'accord. Clubs, ouais, ceux qui sont pas assez forts, tu dois les sortir, ouais, parce qu'ils sont pas, ouais, assez forts par rapport au contexte, ouais, marseillais. Ouais. Et ceux qui sont entre les deux, donc soit, ouais, pas trop forts, et pas assez fort, ouais, en fait c'est des joueurs assez mid et tu, donc, dois les laisser, comment dire, 3-4-5 ans à l'Olympique de Marseille,
c'est comme dans tous les clubs.
Et tu te dis, tu peux peut-être avoir mieux.
Le Racing Club de Lens va pas être en mesure, enfin va pas sortir tous ses meilleurs joueurs.
Si on vous coupe, Patrick Videra est en direct avec nous sur RMC, l'entraîneur du Mans FC. Bonsoir Patrick, merci beaucoup d'être avec nous. Patrick, on peut vous féliciter, même si c'est pas officiellement entériné, parce qu'on rappelle que ce match a été arrêté alors que vous meniez 2-0, mais on sait a priori que la LFP à un moment va bien acter cette victoire et donc cette montée en Ligue 1. Racontez-nous l'émotion un petit peu à Bastia ce soir avec donc cette deuxième montée consécutive, on le rappelle, National Ligue 2 et donc Ligue 2 Ligue 1.
C'est toujours particulier, beaucoup de fierté aujourd'hui par rapport à mes garçons qui ont fait une saison extraordinaire et je tenais à leur dire merci pour ce qu'ils ont pu faire durant cette saison.
On est avec Patrick Videra, l'entraîneur du Mans FC
coach
depuis mai 2024. Walid a
coach,
une question.
Félicitations, vous n'êtes pas très bavard sur la première question là, c'est fou, vous êtes en Ligue 1, vous êtes en Ligue 1, le Mans revient en Ligue 1, vous avez fait un travail exceptionnel, tout le monde parle de Patrick Videra, le coach à la mode, le nouveau coach, moi à chaque fois que vous faites une interview, je lis vos paroles, je bois vos paroles, donnez-nous un peu à l'afterfoot là, c'est quoi l'émotion, qu'est-ce que ça représente?
Non, vous savez, il faut aussi pouvoir garder beaucoup d'humilité. Parce que ce soir, certes, aujourd'hui, on est monté en Ligue 1, mais aussi c'est une descente d'un club. Et je pense qu'on va essayer de rentrer très rapidement pour pouvoir le fêter avec nos supporters. Mais ouais, ça a été une saison dure. Ça a été une saison où je leur avais dit le 30 juin que j'avais simplement une chose dans la tête. Au début, m'ont pris pour un fou, mais je leur avais dit simplement une mission, c'était de pouvoir monter en Ligue 1. Après, vous savez, aujourd'hui, Patrick Videra, il n'est pas à la mode aujourd'hui. C'est surtout ses joueurs qui font énormément de travail et qui ont un état d'esprit.
Ah si, vous êtes à la mode en tout cas. Bravo en tout cas pour votre montée. Ce qui est assez paradoxal par rapport à votre situation, c'est aussi les joueurs que vous avez recrutés. C'est vrai que vous avez eu tendance à aller recruter les joueurs quand même à un niveau plus bas. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un football professionnel où il y a de plus en plus de compétitions, c'est un choix de votre part, c'est un choix de la direction et j'imagine que c'est aussi un choix financier. Parlez-nous un petit peu justement de l'adaptation de ces garçons en Ligue 2, alors que beaucoup quand même n'ont pas eu la chance justement de pouvoir connaître le monde professionnel avant d'arriver sur cette saison. Est-ce que c'est une manière différente de travailler avec ce genre de joueurs ?
Moi, c'est un peu aussi ma façon de travailler depuis peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... aller chercher des garçons de division inférieure, c'est vrai qu'ils ont aujourd'hui, on leur donne la possibilité d'avoir une deuxième chance. Mais après, vous l'avez tout dit, c'est aussi une question financière. On sait qu'aujourd'hui, on était impromu et on a des finances qui sont très light entre guillemets. Et puis il faut faire avec, mais avec beaucoup de travail, avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de personnalité. Notre objectif, c'est de continuer à les faire grandir et que le club puisse continuer à grandir.
Vous avez douté cette semaine après la balle de match que vous aviez à la maison contre Reims. Moi, j'ai cette image de vous avec un genou à terre, choqué. Je me suis dit, oulala, attention, là, Bastia, la semaine prochaine, ça va pas être évident. Racontez-nous votre semaine un petit peu.
Non, vous avez raison, j'ai mis un genou à terre, mais je me suis relevé très rapidement et je suis arrivé dans le vestiaire où je leur ai dit aux garçons qu'il fallait pas avoir de regrets et que ce match nul nous donnait la possibilité d'aller jouer une finale à Bastia. On savait que ça allait être très dur, mais on dépendait que de nous. Donc on a continué à faire une super semaine où il y a eu énormément de sourires, énormément de travail. Comme je leur ai dit aujourd'hui... J'ai dit, garçon, je vous demande simplement deux choses. C'est de sourire quand vous rentrez sur le terrain et de prendre énormément de plaisir. Parce que pouvoir vivre des soirées comme ça, on est des privilégiés. Et aujourd'hui, ces privilégiés, c'est vous. et soyez grands simplement. Donc voilà, ils ont été très grands ce soir.
Patrick Videra, l'entraîneur du Mans FC, notre invité, le Mans qui va retrouver la Ligue 1 16 ans après l'avoir quitté. Bravo Patrick. Un mot, parce que Walid, on a parlé, on sait que vous êtes courtisé, il y a des clubs de Ligue 1 qui pensent à vous, il y a des clubs également au Portugal. Est-ce que vous serez bien sur le Mans pour vivre
sur le banc ou sur le Mans?
Sur le banc et sur le banc et au Mans.
C'est sur le Mans,
pour,
ça peut être dur, quoi.
Vivre cette aventure en Ligue 1.
Sincèrement, aujourd'hui, l'avenir de Patrick Videra, on s'en fout un petit peu. Voilà, ce qui compte, c'est que Le Mans a retrouvé la Ligue 1 16 ans après. Après, sincèrement, j'en parle jamais avec mon agent Pierre Ducrot. C'est lui qui s'occupe de mon avenir aujourd'hui.
Un chic type, Pierre Ducrot.
Ah, vous avez un bon agent.
Ouais, vous avez un bon agent.
C'est un super type. Non, c'est un garçon. On a joué ensemble. On avait 8 ans, donc je suis énormément dans la fidélité. Et puis, je lui fais confiance. Après, c'est à lui de gérer mes intérêts, mais sincèrement, voilà, c'est pas d'actualité ce soir. Et aujourd'hui, je me suis rendu bravo à ces garçons qui ont fait une saison fantastique.
Bon, Patrick, c'est quoi le programme là? Vous rentrez quand à Au Mans? Quand est-ce que c'est la fête? Parce que nous, on a beaucoup de journalistes qui viennent du Mans, qui sont déjà au Mans, prêts à accueillir les joueurs.
Place de la République, apparemment.
Ouais, vous savez, aujourd'hui, l'organisateur, je vais demander au président, mais sincèrement, voilà, on va essayer de partir de Bastia, de pouvoir prendre l'avion et ensuite atterrir au Mans et de faire la fête avec nos supporters.
Merci beaucoup Patrick Videra d'avoir été avec
bravo
nous, l'entraîneur du Mans FC, qui donc permet au club de retrouver l'élite 16 ans après
mythique,
l'avoir quitté.
Mythique.
C'est absolument exceptionnel. Deux montées de suite, on le rappelle, National, Ligue 2 et donc Ligue 1. Bravo à vous. Félicitez évidemment tous vos joueurs et belle soirée à vous et belle fête évidemment avec tous les supporters du Mans. Et on embrasse évidemment Pierre Ducrot qui est un copain et qui écoute souvent RMC et donc qui est un super agent en plus. Donc décidément, il a que des qualités, Pierre. Merci, Patrick, d'avoir
été. Merci beaucoup, et puis bonne soirée à vous, et encore merci.
Coach.
Merci, félicitations, coach. Patrick Videra a donc été notre invité pour saluer cette magnifique victoire. On rappelle donc que le match a été définitivement arrêté 2-0 face à Bastia. On attend que la Ligue entérine ce succès, synonyme de montée pour les Manceaux. On retourne en Angleterre. Vous le savez, il y a également du ping-pong ce soir. C'est les mondiaux par équipe. Franchine, Léna Marjac.
Et malheureusement, c'est terminé. Défaite de l'équipe de France en demi-finale de ces championnats du monde par équipe. Ce sera une médaille de bronze pour nos Français. Ils n'ont pas réussi à renverser cette montagne chinoise ce soir, malgré de très très gros matchs. Ils s'inclinent donc 3-1 ce soir, face notamment au numéro 1 mondial. C'est Félix Lebrun qui a subi la loi dans ce dernier match de Wang Shuxin. Et la France donc s'arrête avec une médaille de bronze après l'argent en 2024. C'est le bronze en 2026 ici à Londres. Et ça reste très très positif pour cette équipe qui était très très jeune ce soir. Bravo quand même à nos Français. Défaite face à la Chine 3-1 ce soir.